Inter, le 18-20.
18h17, une semaine en France, cuisine d'exception pour cette soirée de réveillon. On va se mettre à table avec le chef Bernard Pacaud, triplement étoilé, 3 étoiles depuis 33 ans. Au Michelin, Bernard Pacaud, le chef de l'Ambroisie à Paris. Une cuisine authentique avec des produits d'une extrême qualité, une cuisine sans esbrouffe. Vous ne regarderez plus l'œuf en gelée comme avant. On n'imagine pas le travail de précision, la cuisson et le temps passé en cuisine pour un œuf en gelée façon Bernard Pacaud, en œuf qui disparaît en 3 bouchées de plaisir. Le chef Bernard Pacaud, c'est la quête du beau produit.
Oui, bonjour, c'est moi. Dis donc, tu peux pas me mettre des laitues un peu plus fraîches que ces vieux trucs là? Des laitues, des frisées là.
Invité également le journaliste, grand reporter et documentariste Frédéric Lafont qui vient de publier un livre d'entretien avec Bernard Pacaud, Une vie par le menu à l'iconoclaste. Et on s'intéressera au parcours, à l'histoire de Bernard Pacaud qui, dans la famille des chefs iconiques, est l'un des plus grands et des plus discrets. Également au sommaire de ce 18-20 préparé par Irène Menem et réalisé par Juliette Gou, l'actualité de la semaine écrasée par l'épidémie de coronavirus.
Tout cela semble un film qui n'en finit pas. Je comprends que ces mesures puissent parfois susciter une forme de ras-le-bol.
À 19h, le journal de Xavier Demagny. À 19h20, le téléphone sonne. Présidentiel, crise sanitaire. Comment se présente l'année 2022? On sera à 40 minutes des vœux d'Emmanuel Macron. On attend vos questions juste avant le réveillon au 01 45 24 7000 ou sur le site et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Merci à nos standardistes et merci à nos chefs d'orchestre en régie. Henri Bérec, Vincent Désières et Florent Dorimini.
Frédéric Barrère. Une semaine en France.
Bonsoir Bernard Pacaud.
Bonsoir.
Bonsoir Frédéric Lafont.
Bonsoir.
Alors Bernard Pacaud, nous sommes le soir du réveillon, 31 décembre. Qui dit réveillon dit repas. Alors attention, on va pas mettre mal à l'aise les auditeurs qui sont peut-être en train de préparer le repas ce soir. On veut pas leur donner des complexes en cuisine. Mais Bernard Pacaud, pour vous, quel est le repas d'un réveillon réussi?
De réussir, de faire le meilleur, tout simplement. Ouais. Ça peut être très simple, c'est pas obligé de mettre du caviar et du foie gras partout. Hein. Vous pouvez faire simplement des joues de veau braisées.
Ouais.
C'est magnifique.
Et pour vous, Frédéric Lafont, une idée d'un repas réussi, vous qui côtoyez l'Ambroisie, la cuisine de Bernard Pacaud?
Moi, je me souviens d'avoir été initié à rencontrer des personnes pour qui un vin, un pain, un fromage pouvait dire qui sont ces personnes. Et je me souviens d'une personne qui faisait un vin jaune hein, dans le Jura, Pierre Auvernois. Et Pierre me dit, tu sais, on parle beaucoup des grands vins et en fait, je veux dire, devant un grand vin, il n'y a plus rien à dire. Vaut mieux fermer sa gueule que de faire des grands commentaires. Et alors, tout ça pour dire que je crois qu'on se souvient plus en fait avec qui on était que de ce qu'on a réellement mangé. C'est ça pour moi un grand dîner, c'est avec qui on était, qu'est-ce qu'on a partagé.
Eh ben ce soir on est ensemble. L'Ambroisie, votre restaurant est fermé hein, ce soir, Bernard Pacaud, fermé également à Noël. C'est sacré, le personnel reste en famille.
Bien sûr.
L'Ambroisie, quelle est la signification de ce mot à double sens, je crois?
L'Ambroisie, écoutez, c'est mon épouse qui a trouvé ce nom.
Votre épouse Danielle?
Oui, ouais. C'était la nourriture des dieux grecs.
Ouais. Hein?
Bon, au début, moi, je trouvais que c'était un peu prétentieux, mais en plus, il y a des gens qui me disaient, vous savez, il y a une ambroisie, il y a une herbe qui est très
qui donne beaucoup d'allergies.
D'allergies. Alors, j'étais pas tout d'accord au début avec Daniel. Hein, mais bon, ça fait 35 ans que ça porte le nom et c'est bien.
Quelle est votre clientèle, Bernard Pacaud, à l'Ambroisie? À quelle occasion les gens viennent dîner chez vous pour des fêtes, pour célébrer un mariage, pour dîner tout simplement?
Oui, il y a un peu tout. Oui.
Il y a un peu tout. Tout.
Après, bon, peut-être la semaine prochaine, comme je suis passé chez vous, là, à France Inter, j'aurai peut-être plus de clients.
Les auditeurs de France Inter. C'est tout le bien qu'on leur souhaite, bien sûr, et qu'on vous souhaite. Alors, dans cette période de crise actuelle, même si on vous souhaite beaucoup d'auditeurs de France Inter au dîner, mais dans cette période actuelle de crise sanitaire, quelles règles vous avez prises dans votre restaurant pour renforcer les gestes barrières en salle, en cuisine, ou lorsque vous achetez des produits?
Ah bon, on est au top, là. Ouais. Tout le monde a des masques, tout le monde se lave les mains. Bon, en cuisine, on se lave les mains au moins 30 fois par jour, hein. Mm-hmm. Facile. Et non, c'est les clients montent leur passe.
Ouais.
On a mis des appareils qui changent l'air sans arrêt. Non, c'est bien. Mais j'ai toujours peur qu'il y ait un employé qui... Parce que je connais des collègues qui ont fermé à cause de ça.
Hein. Ouais. Vous avez été contrôlé?
Non.
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 Le repas, ça reste un moment de partage, un moment de plaisir et de convivialité malgré les restrictions sanitaires. Il y a des gens qui viennent de loin, de très loin pour dîner chez vous.
Oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
De toute la France, de l'étranger aussi.
Toute l'Europe.
Oui. Comment ça se passe en cuisine? On dit que vous êtes un chef. On dit pas grand chose en fait. On va écouter.
Non. Bah oui.
On va écouter un extrait du reportage de Frédéric Laton, de Frédéric Laffont. Mais est-ce que
vous êtes trié celui-là? Hein.
Est-ce que vous êtes un chef autoritaire? Parce qu'on a l'impression que parfois en cuisine c'est exigeant. Ouais. Bon, on écoute.
Oui, bonjour, c'est moi. Dis donc. Tu peux pas me mettre des laitues un peu plus fraîches que ces vieux trucs là? Des laitues frisées là. Qui c'est qui m'a mis ces laitues merdiques ce matin là? Écoute, moi tu me mets les produits frais, j'en ai rien à foutre, tu me fous des trucs. Non. Bon alors tu m'en descends trois autres. Je veux deux concombres et je veux du cerfeuil qui ressemble à du cerfeuil, pas ces merdes là qui est. Tu plaisantes, non? Non, cherche-moi du cerfeuil qui a un peu de tenue là.
C'est direct, mais Paco,
oui,
mais dans bon. Le livre, vos fournisseurs, dans le livre de Frédéric Laffont, vos fournisseurs disent que vous êtes parfois un emmerdeur.
Oui, je sais. Mais c'est ça, je suis exigeant.
Mais
je veux de la qualité, je ne regarde pas les prix, ouais. Et je veux avoir les meilleurs produits.
Et le cerfeuil est de qualité, comme on
peut l'entendre. Oui, le cerfeuil, oui, mais c'est rien ça, c'est simplement le cerfeuil, c'est simplement une décoration.
Il s'agissait, ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait du film documentaire Secret de cuisine que vous avez réalisé en 2001, Frédéric Laffont. C'est une amitié de 30 ans qui vous unit à tous les deux, ou presque, pratiquement comme les étoiles au Michelin. Comment, Frédéric Laffont, vous définiriez Bernard Paco, un chef fabuleux?
Moi, je pense que les superlatifs ne disent pas ce qu'est un homme. En fait, ouais. On est habitué aujourd'hui à... particulièrement avec Bernard, qui incarne l'excellence de la gastronomie française depuis plus de 30 ans, pouvoir utiliser tous les superlatifs que l'on voudra, on ne dira jamais qui il est et ce qui se passe vraiment en cuisine. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'aujourd'hui encore, il était en cuisine, et ce depuis 60 ans, et que pour les deux services, il sera toujours là, en artisan, chez lui, à essayer de faire... Voilà, le meilleur. Mais ça veut dire quoi, le meilleur? Quand on le fait deux fois par jour. Je veux dire, quand on écrit un livre, moi j'ai passé des années à écrire ce livre, je peux passer des mois à faire un film, mais là on essaye de donner le meilleur, mais c'est pas au jour le jour. Deux fois par jour, il y a cette chose vertigineuse qui est de répéter cette exigence. Et pour moi, il y avait quelque chose de méconnu, parce que Bernard n'est pas du tout le chef le plus médiatique, on va dire ça comme ça. Hein. Beaucoup de chefs sont aujourd'hui des célébrités, pas Bernard. Ouais.
Le guide Michelin dit qu'il est taiseux, mais que sa cuisine parle pour lui.
Oui, c'est vrai, certainement.
J'ai réussi ça. Ouais.
Pardon?
J'ai réussi cela.
Et pas que cela.
Oui, Bernard Paco, c'est pour moi comment une vie de travail fait une vie... belle et crée des liens entre des êtres. Je crois que c'est ça. Au-delà de lui, il y a tous les gens qu'il a pu former, il y a tous les gens qui, chez lui, ont pu se rencontrer, et il y a encore une quête d'excellence qui va chez des personnes bien au-delà de son restaurant.
Ouais. C'est un film facile à faire, simple à monter, à réaliser?
Quand je... j'ai passé presque une saison, il y a de ça 20 ans, vous l'avez dit... Je passais l'autre moitié de ma vie entre Gaza et Jérusalem pendant la seconde intifada. Donc, évidemment, c'est facile d'être là dans ces moments. Simplement, justement, le souci est toujours de comment dépasser l'évidence de la « c'est beau, c'est bon, c'est excellent, c'est magnifique ». Enfin, on dit rien quand on a dit ça. Ce livre, si pendant 10 ans je suis allé recueillir la parole parcimonieuse de Bernard, je dis à un moment, la parole de Bernard, elle est plus rare que les champignons les plus rares, mais c'est vrai. Donc il y a eu cette collecte des paroles de Bernard, et puis après, j'ai profité de ces confinements pour écrire ce livre, qui est pas seulement un livre d'entretien, c'est pas retranscrire seulement ce qui a pu être dit, c'est essayer dans les blancs d'une vie d'un homme de reconstituer ce qui fait que il y a une vie tout à fait exceptionnelle, alors qu'à la base, rien n'était donné pour cela, oui.
On se retrouve dans un instant, Bernard Pacaud, Frédéric Lafont, comme chaque vendredi. On va se remémorer un peu l'actualité de la semaine avec ce mix réalisé par Frédéric Milano, une semaine dominée par l'épidémie et ce sale virus qui ne veut pas nous laisser tranquilles.
Tout cela semble un film qui n'en finit pas. Je comprends que ces mesures puissent parfois susciter une forme de ras-le-bol.
Et pour le réveillon de ce soir, le Premier ministre Jean Castex donne ses recommandations.
Je vous renouvelle, en y insistant, les recommandations. Limitons les grandes fêtes et les grands dîners. Portons le masque, aérons les pièces, respectons les gestes barrières, testons-nous.
L'épidémie s'affole, les chiffres des contaminations paraissent sans limite, nous dit Olivier Véran.
Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. Il y a 208 000 Français qui ont été diagnostiqués positifs au Covid au cours des 24 dernières heures. Ça veut dire que 24 heures sur 24, jour et nuit, toutes les secondes dans notre pays, plus de 2 Français sont diagnostiqués positifs au coronavirus. Nous n'avons jamais connu une telle situation, il y en a partout.
Et désormais, beaucoup se demandent s'il faudra une 4e dose de vaccin, à commencer par le ministre de la Santé.
C'est une possibilité. Donc j'ai pas la réponse formelle à vous donner, je vous dis juste qu'on est totalement ouvert à cette perspective. S'il faut aller devant les Français pour leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons.
Et au moment où l'on parle de 4e dose, les anti-vaccins se raidissent. Michel, artiste non vacciné.
Pas de bras, pas de chocolat, pas de vaccin, pas de sortie. Non. Puis tiens, t'as pas ta 3e dose, on va t'annuler ton pass. L'année prochaine, on en sera à 18. T'as pas eu le 17e dose, on repart à zéro. C'est n'importe quoi.
Et certains anti-vax mènent une guerre numérique à outrance contre le pass vaccinal. Aurore Berger de La République En Marche en a marre, elle porte plainte.
Oser comparer la mise en place du pass vaccinal avec un statut discriminatoire qui a envoyé des dizaines de milliers de Français juifs à la mort, je trouve que c'est profondément indigne. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre, matin, midi et soir, de me faire traiter de nazi ou de collabo uniquement parce qu'on a un vaccin qui est mis à disposition de l'ensemble des Français. On en a en vérité tous besoin.
L'annonce faite par Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, les examens se tiendront en présentiel, comme le demandait la majorité des étudiants.
À la maison, tout le monde avait le cours à côté. Et là, à la fac, on est tous pareils. Personne n'a du cours et ça se base sur les connaissances et le temps de travail. Donc on est tous pareils et c'est mieux.
Dans cette semaine sombre, dominée par Omicron, un demi-sourire grâce aux artistes qui élargissent considérablement la liste des candidats à l'élection présidentielle. Face aux restrictions et aux jauges, le comédien Jarry annonce que ses spectacles sont désormais des meetings.
Comme apparemment les meetings politiques ne dépendront pas des jauges, il y aura le nombre de personnes, j'annonce. Je me présente aux élections présidentielles, voilà. Donc gardez vos places de spectacle et ce sera super.
Moins super, la violence dans les stades après les graves incidents lors du match Paris-FC Lyon. La Fédération Française de Football sanctionne match perdu pour les deux clubs éliminés de la Coupe de France. Jules, supporter parisien.
Là, on voit que la FFF, elle a voulu frapper fort. Mais encore une fois, c'est les mauvaises décisions. Comme depuis le début de saison, ils mettent que des sanctions collectives, mais c'est des sanctions individuelles qu'il faut appliquer.
Le foie gras également dans l'actualité cette semaine et ce soir sans doute sur la table du réveillon. Le député Loïc Dombreval veut que l'appellation foie gras soit élargie au foie sans gavage et un producteur lui répond.
Il faut que l'animal soit gavé matin et soir à raison d'une certaine quantité d'aliments tous les jours pour qu'il puisse établir en fin de compte une transformation de son foie en réserve. Sinon c'est pas du foie gras, non, ça peut pas être du foie gras.
Un réveillon sous des records de douceur et ce n'est pas une bonne nouvelle.
D'un côté, je suis content parce que je fais des économies, Mais d'un côté, je m'inquiète parce que je me dis c'est pas normal. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. On change nos habitudes de consommation parce que la planète se réchauffe, mais on n'agit pas pour lutter contre le réchauffement climatique.
Le mot de la fin avec le coup de gueule de Mathieu Lebrun, patron de discothèque fermée en janvier et donc ce soir pour la nouvelle année.
Ce gouvernement qui est tout le temps en train de prôner le bon sens n'a plus de bon sens. Là, actuellement, en nous fermant, il se tire une balle dans le pied. Là, actuellement, le 31, vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux, vous trouvez multitude de soirées qui vont avoir lieu avec des DJ, c'est des soirées privées. Et là, on ne parle pas de passe sanitaire, ni de passe vaccinale, de masque et compagnie.
Le mix de la semaine, un grand merci à Frédéric Milano. Bernard Paco, c'est une actualité lourde. Est-ce qu'il y a une information sur laquelle vous voulez réagir dans ce qu'on vient d'entendre?
C'est le foie gras, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, je ne comprends pas. Le foie gras, c'est un produit qui est... Surtout, il y a des gens qui... je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur reproche. Parce qu'il y a des gens, nous, on a un fournisseur, c'est les oies, les canards sont très bien traités, c'est bon. Ils essayent ce foie gras, et bon, c'est vrai que c'est une maladie du foie. C'est bon, il leur donne à manger sans arrêt, mais bon, il y a une façon peut-être plus simple que de l'interdire. Hein.
Le football? Et les sanctions contre Lyon, c'est une ville que vous connaissez bien, on va en parler dans un instant. L'une de vos idoles, c'était Raymond Coppa.
Ah oui. C'est Raymond Coppa, ouais. C'est lui qui l'a écrit. Hein.
C'est vrai, non, tu peux dire.
C'est vrai, bien sûr. Mais... Non, parce que je jouais au foot quand j'avais 12 ans et mon prof de français.
Ouais.
Parce que j'étais pas très fort en français, encore moins. Et donc, j'étais ailier droit et mon frère était ailier gauche. Mais Paco, il avait inversé, il avait marqué Coppa.
Ouais, on a inversé les syllabes.
Voilà, ça.
Paco, Coppa. Aujourd'hui, c'est plus le foot, Bernard Paco.
Non,
c'est
plus de foot.
C'est la pétanque?
La pétanque.
Toujours?
Oui. Oh, bah, là, il fait pas beau quand même. Hein. On n'y va pas souvent.
Mais si on a entendu Sébastien Léas, il va faire beau.
Il y a du travail aussi. Hein. Actuellement, il me manque des employés, donc je suis bien obligé d'être là présent.
Ouais. Ouais. Alors,
midi et soir.
Hein. Ouais. Oui, c'est ce que nous disait Frédéric Lafont. Ça fait 60 ans que vous cuisinez le midi et le soir.
Mmh. Hein. C'est une passion.
Alors, la pétanque va nous amener au prix de la grande gastronomie. Un repas à l'Ambroisie, Bernard Paco, il faut compter combien? 400 euros le tarif, 300 euros pour un dîner, moins?
Moins, ça dépend, ouais. Ça dépend des vins. Ouais. Bon, c'est les boissons qui augmentent le... Mais chez nous, c'est entre 250 et 280.
D'accord. J'ai dit que la pétanque va nous amener au prix de la grande gastronomie parce que vos copains, les boulistes, qui vous appellent chef, se moquent de vous et se foutent de moi. C'est ce que vous dites dans le livre de Frédéric Lafont. À propos de vos tarifs, et l'Ambroisie est un autre monde. Vous arrivez à jongler entre la pétanque et l'Ambroisie. C'est important.
Oui, parce que pour eux, je reste simple, je reste modeste, je parle. Mais c'est certain que c'est des gens qui n'ont pas des revenus, pour venir manger chez nous. Alors, ça me gêne beaucoup, hein. Mais non. J'en parle pas, c'est tout. Alors, ils m'entendent des fois dans des émissions, mais bon, je suis. J'abaisse bien là-dessus. Hein. Non.
Oui.
Non, on ne peut pas. Alors. C'est très difficile.
Est-ce que vous cuisinez les œufs maillots?
Non, j'ai un copain qui fait ça, il fait tous les concours des œufs mayonnaise.
Parce que on a appris cette semaine que l'œuf mayonnaise est l'un des plats les plus commandés en France et dans le monde. Il est au 5e rang des mondiales, le premier en France selon le top 100 des plats livrés en 2021 par Deliveroo. On écoute le reportage de Delphine Evenou.
Au Bouillon, l'œuf mayo est une institution, élu champion du monde en 2019. Une réputation qui s'est vérifiée dès le début du partenariat avec Deliveroo il y a 9 mois.
Tout de suite, ça a été une des meilleures ventes.
Daniel Udry, le chef du Bouillon République.
Par jour, on est à peu près sur un volume de 2000 œufs mayonnaise. On a été en tout cas les premiers surpris de voir les volumes traités et puis de voir à quelle position on se trouvait comme ça au niveau mondial.
Un œuf dur et de la mayonnaise, la recette n'est pourtant pas inaccessible aux plus paresseux, mais le chef a un secret.
La seule particularité, entre guillemets, que nous ayons, c'est l'ajout d'un vinaigre tiède pour dissoudre le sel et le poivre à la fin du montage de la mayonnaise.
Et voilà cette entrée désuète de nouveau séduisante.
C'est un hit, c'est un tube.
Damien Stéphan, le porte-parole de Deliveroo France.
Ça jure un peu dans la liste des Deliveroo 100, qui est une liste un peu plus world cuisine, etc. Et donc, il y a ce petit côté village gaulois, tradition française, etc., qui explique aussi certainement son succès. Et c'est la preuve d'ailleurs que des plats de brasserie, de tradition française, etc., peuvent très bien fonctionner sur les applications de livraison, pourvu que ce soit astucieusement mis en avant.
L'œuf maillot du bouillon détrône au classement un cheeseburger, mais attention, le kebab est en embuscade.
Le secret est dans le vinaigre tiède, Bernard Paco,
oui,
sur le maillot. Ouais.
Moi, je connais ça.
Oui.
Oui, chez Brasier, on faisait des mayonnaises.
La mère Brasier.
La mère Brasier au Calvaire, et elle faisait des asperges, des asperges blanches, et on servait une mayonnaise comme ça, détendue à la fin, détendue avec du vinaigre chaud. Oui.
Alors, ça, c'est pour l'œuf maillot, dans le premier livré en France par Deliveroo. On va parler de l'œuf engelé, parce que Frédéric Laffont, dans votre livre « Une vie par le menu », la recette, je la trouve extraordinaire. Elle court sur plusieurs pages. Elle a, moi, j'ai trouvé un côté poétique et une rigueur de cuisinier d'orfèvre. Et on comprend mieux le prix de l'assiette. Pourquoi vous avez choisi cette recette? Il y a aussi les grives de Claude Perrault. Et pourquoi vous avez choisi cette recette particulièrement et la mettre en valeur dans votre livre? Après, je demanderai à Bernard Paco comment on l'a fait.
Parce qu'elle parle d'un œuf, que c'est, je pense, non seulement accessible mais compréhensible par tout le monde. En fait, là, évidemment, la cuisine de Bernard, elle est rigoureusement à l'opposé de l'extrait que vous venez de diffuser. Faire 2000 œufs maillot, c'est juste l'opposé de l'ambroisie. Et donc, consacrer plusieurs pages pour faire un œuf qui va demander plusieurs jours de travail, je pense que là, on a la quintessence de ce qu'est la cuisine de Bernard, sans évidemment, dès le début, l'idée de ne pas faire un livre de recettes est à la base de ce projet et de ce livre, puisque une recette, c'est un mensonge. Une recette demande à la fois des produits qui sont, pour tous les auditeurs ce soir, généralement inaccessibles, demande des outils dont personne ne dispose chez soi, mais surtout demande 60 années d'expérience, ce qui est le cas de Bernard, pour faire des choses qui sortent justement de cet œuf maillot de fast-food. Donc, à ce moment-là, pourquoi consacrer un œuf maillot et c'est pas à l'œuf engelé?
L'œuf engelé, oui.
C'est quelque part, il y a très peu de recettes, il y a très peu d'indications dans le livre, et elle résume un peu ce qui, pour moi, est le plus important, à savoir le travail d'un homme pour accéder à des choses qui n'existent pas ailleurs.
Bernard Paco, l'œuf engelé, 3 jours de travail, fond blanc de volaille et de veau, peu de bœuf, 30 litres d'eau, écumer, ajouter la garniture, le céleri, le poireau sur feu doux tout l'après-midi, clou de girofle, colorer aux oignons grillés, réduire de 5 litres à 1 litre, ajouter le porto, emporter à ébullition parce que l'albumine de l'œuf coagule, et puis il faut laisser au four un après-midi, puis une nuit au frigo, et là on n'a fait que la gelée. Après il faut faire cuire l'œuf.
Oui.
Et lorsque l'œuf est bien froid, là, on fait chauffer la gelée pour la rendre sirupeuse. Et là, vous nappez l'œuf 3 fois.
Comme si on laquait.
Et attention aux défauts.
Ah oui, s'il y a des défauts, on recommence tout. Oui, c'est assez. Non, mais c'est la gelée qui est le plus long à faire, c'est pas l'œuf. Mais cette gelée, bon, c'est un fond blanc, C'est-à-dire que il y a des queues de bœuf, il y a des pieds de. Il y a des pieds de veau, il y a plein de choses. Il faut une gélatine, quand même. Et c'est vrai que ça dure comme ça, à peu près de 2 ou 3 jours.
Après 3 jours de travail, l'œuf quitte la cuisine. 3 ou 4 bouchées. De plaisir.
Mais c'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Vous savez, quand je faisais une recette qui s'appelait une à base de petits pois. Des petits pois et des écrevisses. Eh bien, les petits pois, Quand ils sont très petits, je les touche pas, mais quand ils sont un peu plus gros, je les cuis un peu à l'eau chaude et du sel, et après j'enlève la deuxième peau. Alors vous pouvez imaginer, donc on est 6 à faire ça le matin, pour 10 personnes.
Vous enlevez
la seconde peau. Donc ils sont coupés.
Personne ne s'en rend compte, vous dites.
Ben personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. Mais bon, le client, une cuillère, c'est fini. Et nous, on a passé 2 heures dessus. Mais c'est ça. C'est d'aller le plus loin possible dans les exigences et c'est de la qualité.
L'exigence et la qualité. Il y a une recette que je cite de votre ami et mentor Claude Perroux du Vivarois, c'est la terrine de grive.
Là,
c'est
alors là, oui.
90 grives, 48 heures de travail, 8 jours d'attente et ces 90 grives, on en fait 6 petites terrines.
Bah oui, parce que 90 grives, une fois que vous êtes tout dénervé, désossé, dénervé, il vous reste que, une grive, ça doit faire combien? 125 grammes. Une fois que vous avez enlevé les os, les plumes et tout ça, et bien, il vous reste plus que sur 90 grives, il vous reste à peu près 1,5 kg de produit.
Et lorsque sa femme, Madame Perrault, demande à
Jacqueline,
à Jacqueline demande à Claude Perrault à quel prix sur la carte.
Et bien, il dit tu le vends, tu fais le prix que tu veux. De toute façon, j'ai passé trois jours dessus. Et voilà.
Ça n'a pas de prix.
Ça n'a pas de prix, mais ces recettes n'ont pas de prix.
La cuisine est à la mode aujourd'hui, Bernard Pacot, grâce aussi à des émissions, aux réseaux sociaux. Pourtant, vous dites dans le livre que vous consacrez à Frédéric Lafont que cette cuisine télé, la télécuisine, a hystérisé la cuisine.
Ouais, ça c'est moi qui l'ai dit.
C'est vous qui l'avez
dit, oui. Absolument. Bon, déjà toute forme de cette télé-réalité, elle a hystérisé à peu près tous les domaines de la vie, non? Et dont la cuisine. Et oui, enfin, l'idée de faire venir des chefs qui vont disparaître les uns après les autres, semaine après semaine, c'est pas vraiment le cadre de la formation et l'itinéraire de Bernard Pacot. Donc, il y a vraiment une évolution très forte, on le voit, hein, très rapide. La cuisine raconte aussi cette évolution très vite de notre société. Où les mentors, comme vous dites, de Bernard, la mère Brasier à Lyon, Claude Perrault, c'est des personnes qui ont vécu à la ferme, c'est des gens qui ont eu, dont les grands-parents de Bernard sont des gens qui ont eu faim, et la mère Brasier aussi. Et donc les représentants aujourd'hui de la grande gastronomie française sont des personnes qui ont vraiment connu la faim, et ce, pas seulement pendant la guerre. Et ces itinéraires-là ne sont pas que des univers d'exception, encore moins de luxe et de choses inaccessibles. Sont quand même des gens du peuple qui, à un moment, vont, par le travail, se hisser à des niveaux d'excellence qui ne leur étaient pas promis. Et ça, c'est, je trouve, une invitation magnifique et pas du tout quelque chose qui serait élitiste et qui laisserait la plupart des gens sur la touche.
Mais si ce genre d'émission Top Chef, ou les réseaux sociaux, TikTok, les recettes données sur les réseaux sociaux, donnent envie à des jeunes de devenir chef, l'époque a changé par rapport à la vôtre, Bernard Pacot, bien évidemment, c'est plutôt bien.
Mais c'est pas pour ça que vous trouvez beaucoup de gens qui veulent faire la cuisine professionnellement.
Oui.
Alors, c'est un amusement pour eux. Ouais, mais c'est pas ça, la cuisine. La cuisine, si vous rentrez dans ce métier, il faut aller jusqu'au bout. Vous faites un concours.
Et c'est un travail de fou.
Oui, oui. Non, pas en plus, c'est, j'avais un collègue comment il s'appelle? Bruno Verjus. Il avait fait un article là-dessus, mais il disait que c'était du masochisme pour ces jeunes. Qui étaient là, tremblants, parce qu'on les amenait leur plat, et que il y avait 3 gars qui goûtaient, qui disaient, ah bah oui, mais si t'avais fait ci, si t'avais fait ça, mais non, qu'est-ce que c'est? C'est de la rigolade. Hein.
Alors, Maurice Sacco, c'est un jeune chef étoilé, une étoile au Michelin, oui. Révélé par un Top Chef, disciple de Thierry Marx. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il dit sur la cuisine.
Les recettes que je fais quand je m'inspire des recettes africaines, dans 90% des cas, c'est des recettes que ma mère me faisait et que j'ai mangé à la maison, quoi.
Quelle cuisinière est-ce qu'elle était?
C'était une cuisinière, une très bonne cuisinière. Et je dis pas parce que c'est ma maman.
Un peu quand même, mais bon, on vous pardonne.
Mais de l'avis de tous les voisins et autres, c'est une femme très généreuse. Quand elle cuisinait, en fait, dans l'immeuble, ça sortait dans tout le hall. Et on avait souvent les voisins qui venaient toquer, comment vous allez et autres. Et souvent, elle faisait des petits doggy bags pour tout le monde. Donc quand il y avait le tchibougène qui était fait pour nous, faut savoir que les voisins en-dessus en avaient, ceux en-dessous, celui en face. Et tout le monde mangeait tchibougène ce soir-là, quoi.
Diriez-vous que la cuisine, c'est toujours, Maurice Sacco, une histoire de transmission?
Ouais, la cuisine, c'est d'abord la transmission, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se qui ne s'écrivent pas et qui se ressentent. Et pour pouvoir ressentir ces choses-là, faut être présent, il faut un échange, quoi.
Maurice Acco du restaurant Moussuki à Paris, invité de Boomerang et Augustin Trapenard vendredi, vendredi dernier. La cuisine, c'est une affaire de transmission, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Mais là, c'est un garçon que je l'ai vu lorsqu'il a eu sa première étoile. C'est un gars charmant, hein. Après, ce qu'il dit, c'est ça, c'est la maman ou la grand-mère qui fait à manger et l'enfant, il est là, il se régale. Mmh. Ce sont des souvenirs, comme on dit, la Madeleine de Proust.
Bernard Pacot et Frédéric Lafont, on se retrouve dans un instant. On évoquera, Bernard Pacot, votre parcours, votre histoire et votre rencontre ô combien importante et ô combien déterminante. On fait d'abord une pause en musique avec Henri Salvador.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
La voix douce et chaude d'Henri Salvador.
Magnifique.
Le jardin d'hiver, le choix musical cette semaine de Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Frédéric Barrère.
Une semaine en France avec le chef étoilé Bernard Pacot et le journaliste Prix Albert Londres, Frédéric Lafont, auteur d'un livre sur Bernard Pacot, Une vie par le menu à l'iconoclaste. Bernard Pacot, votre histoire, votre parcours, vous êtes né dans la France de l'après-guerre, dans les Côtes d'Armor à Plaine-Haute, entre Quintin et Saint-Brieuc. C'est là que vous passez votre enfance, élevé par vos grands-parents, Jeanne et Albert Lemoine.
Mmh.
Votre maman est une fille mère, et dans cette France de 1947, c'est très très mal vu.
Exact, exactement.
Vos grands-parents vous donnent le goût de la cuisine et des bons produits. Hein, vous n'avez pas de copains à 5 ans.
Non.
Vous dites que les petits pois sont un bonbon pour vous.
Oui, oui. Quand vous cueillez des petits pois qui sont frais, tout petits, ouais. Il ne faut pas les cueillir au bout de... une semaine où il a plu, parce que là, ils viennent secs. Mais quand ils sont tout, tout, tout jeune, comme ça, vous les ouvrez, mais c'est du sucre. Hein.
Et on apprend aussi ça, vous, ce goût-là, cette passion-là, vous l'apprenez avec votre grand-père, qui s'occupe des jardins.
Oui, il était une très grande sensibilité là-dessus, sur son travail, le jardin. Il voulait que ça soit le plus beau, le plus sain aussi.
Et à 5 ans, vous savez touiller le sang du cochon avec un poireau.
On fait ça hein, dans toutes les fermes. Quand on tue un cochon, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de touiller le sang pour pas qu'il caille avec un verre de poireau. Oui.
Alors à 6 ans, vous arrivez à Lyon chez votre mère, René Lemoine, et son mari, Le Paco,
oui.
Qui vous reconnaîtra. Et à 6 ans, en arrivant à Lyon, vous ne vous exprimez pas en français encore. Vous parlez gallo, breton, un dialecte.
Même encore. Hein. je suis pas très doué pour ça. Mais non, c'est vrai.
Alors, ouais.
Oui, c'est vrai. Ben même mes frères, mes demi-frères, ouais. Les parents du Paco, ben je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait pas, hein, parce que bon, j'étais comme dans une famille comme ça. J'étais un bon, je veux pas dire des mots qui sont pas beaux, mais j'étais mal vu. Il y a que ma mère qui pouvait m'approcher. Mm-hmm. J'étais un peu rejeté, mais. Avec mes frères, après, bon, on a grandi ensemble, donc après, on était complices, mais au début, c'était très dur.
Vous avez été placé, et puis ça se passait mal à la maison. Il y avait beaucoup de violence, de disputes. Et à Noël 58, pour ne pas rentrer à Lyon, chez vous, chez votre mère et le Paco, vous avez essayé de vous casser le bras en frappant dessus. Noël.
Oui.
Noël 59, un an après.
J'avais trouvé plus de tranquillité à la boisse où j'étais dans ce foyer. C'était pas un foyer, hein, c'était
un orphelinat.
Un orphelinat. Et c'est vrai que je trouvais plus tranquille. Il n'y a pas tous ces mes parents qui se battaient, qui s'injuriaient. Surtout qu'on avait notre chambre était mitoyenne avec la leur, donc c'était dur.
Donc vous arrivez dans un foyer de prêtres ouvriers près de Lyon. Le responsable, le père Aimé, quittera le foyer entre deux gendarmes. On l'appelle ça aujourd'hui.
Oui, déjà,
un pédocriminel. Mais heureusement, il y a le père Émile qui est aussi bon que bigleux, dites-vous.
Oui.
Et vous allez avec lui au col de la Luère, et là. Vous faites une rencontre déterminante, la mère Brasier.
Exact. Exact.
Elle est filmère comme votre
oui, maman. Elle a vécu pareil. Son père l'a rejetée. Mais avec son fils. Hein. Elle était dans des fermes, elle élevait des cochons.
Frédéric Lafont, il y a cette très belle phrase dans votre livre. Vous l'avez abordée un tout petit peu il y a un instant sur cette phrase sur la cuisine de la mère Brasier et de Bernard Paco. La mère et vous êtes des enfants de paysans qui ont eu faim, dites-vous, et vous gardez une trace de cette nuit. C'est ce qui explique, selon vous, la modestie de Bernard Paco.
Je pense que Bernard définit sa cuisine comme étant une cuisine de femme, à savoir en opposition à cette cuisine de chef qui déjà faisait essayer d'avoir de l'ornementation. Donc une cuisine qui se définirait tout d'abord par la générosité. Donner le meilleur avec ce que l'on a. On commence pas tout de suite avec 3 étoiles, mais dès que Bernard a l'idée de faire un bistrot, ben il veut comme aujourd'hui le meilleur. Et donc ce bistrot qui voulait le meilleur... 1, 2 étoiles tout de suite, puis 3 étoiles très vite après un déménagement, parce que là où il était, il aurait jamais pu avoir 3 étoiles dans le petit restaurant qu'il avait sur les quais de Seine. Et je pense que cette idée que la table est avant tout là pour rassembler des personnes et être dans cet acte d'amour qui a pu manquer, mais qui se répète 2 fois par jour, ouais, je crois que c'est le moteur de la cuisine de Bernard, y compris dans l'excellence dont vous avez parlé tout à l'heure, ouais.
Autre rencontre déterminante, Bernard Paco, chez Claude Perrault, au Vivarois. Donc bien sûr, le chef Claude Perrault. Mais c'est là que vous rencontrez Danielle, elle va devenir votre épouse. Elle arrive un jour en cuisine. Elle est assez moderne, assez rock'n'roll, un peu
oui,
punk,
oui.
Non, pour l'époque.
Oui, elle provoque beaucoup.
Elle a les cheveux rouges.
Oui, elle fait du henné, un peu...
Et vous la séduisez en salant des plats.
Tout simplement. Je faisais des concours avec Claude Perrault, celui qui faisait les brioches les meilleures. Et, elle avait pris qu'à combien ? Je sais pas, combien, 1 gramme de cholestérol. Oui, non, non, mais c'était...
Un geste très sensuel de la main, dit-elle. Voilà,
oui, c'était un nuage de sel. Sur... Oui, mais il y avait quand même, 50 ou 60 rougets. Hein. J'ai fait comme ça, je les ai...
Vous vous en souvenez bien. Il y a un épisode avec Isabelle Adjani aussi à l'Ambroisie.
À l'Ambroisie, là.
C'est votre épouse, Daniel, qui règle la demande.
Oui, bien sûr.
Donc, Isabelle, qu'est-ce qui se passe avec Isabelle Adjani?
C'est-à-dire qu'on était complet, donc elle a mangé dans la cave. Et après, nous, on était en cuisine, on était que deux en cuisine. Après, Daniel, mon épouse, lui a dit, vous voulez voir la cuisine? Oui, je veux voir les cuisiniers, c'était magnifique, tout ça. Et elle s'est maquillée, elle était belle. Oui. À cette époque-là, c'était en 80, donc elle était magnifique, après très gentille, après je l'appréciais encore beaucoup. Mais voilà, et elle est arrivée, et nous on était comme ça, de saut, là, comme ça. t'es une princesse devant toi, t'es une beauté.
Elle mange en sous-sol à côté des toilettes.
Ah oui, pas loin. Ouais.
Pas loin.
Pas loin.
Bernard Paco, est-ce qu'aujourd'hui on peut créer un plat en cuisine? Est-ce que, voilà, inventer un plat? Vous avez failli y arriver avec des figues.
Oui, mais ça, j'ai eu la leçon après. Hein.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que quand j'ai feuilleté ce livre sur les repas à la cour de Louis XV, la recette était là déjà. Elle déjà existait. C'est quelle époque, le Louis XV?
Bernard, la conviction pour une fois. Il y a cette modestie de dire on n'est pas créateur en cuisine. Mm-hmm. Aujourd'hui, tout le monde se déclare créateur et Bernard est dans cette humilité, évidemment, de dire qu'il n'a rien inventé, qu'il est dans cette transmission dont vous parlez. Et que quand, pour les amis, il avait fait une figue, elle était à quoi ta figue, Bernard? T'avais fait un...
J'étais en Corse, donc il me manquait un dessert. J'avais trouvé de l'agneau magnifique. En Corse, il y a des produits exceptionnels. Et donc, j'étais dans un motel, et il y avait des figuiers. J'ai cueilli les figues. Mm-hmm. Je les ai mis à mariner avec du miel et du fenouil sauvage. Je les ai pochés le lendemain, je les ai fait comme ça avec une glace et c'était magnifique. Alors je pensais que j'avais inventé un truc. Je dis putain, je vais le faire à l'Ambroisie.
Et puis quelques mois après.
Je prends le livre.
C'était déjà sur la table de Louis XV.
Hein. C'était déjà sur la table de Louis XV.
Et la recette identique. Il n'y avait pas de. Alors là vous tombez de haut. J'ai dit bon. Voilà. Hein, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit non. Je pensais avoir...
Un grand merci Bernard Paco, Frédéric Lafont.
C'est moi qui vous remercie.
Vous avez reçu aussi Bill Clinton, Barack Obama, qui a adoré votre tarte au chocolat amer. Oui. Vous savez qu'on la trouve partout, la recette, sur Internet.
Oui.
Mais on n'arrive pas à la faire.
La vraie.
Ouais. Non. Merci à vous, Frédéric Lafont, Bernard Paco.
Merci.
Bon réveillon.
C'est très gentil.
À vous aussi. Oui.